Donc la Belgique, c'est un pays qui est né en 1830. Je continue, parce que l'historique. Donc c'est un pays qui est né en 1830. En fait, il faut se replacer dans le cadre de la fin de l'Empire napoléonien. L'Empire de Napoléon était allé jusqu'en Allemagne, jusqu'à Hambourg. Et à la chute de Napoléon, les Anglais ont insisté pour mettre en place un État assez fort au nord de la France, qui puisse contenir les poussées de la France dans le nord et défendre le port d'Anvers, qui est un port extrêmement dangereux pour l'Angleterre. Le problème, c'est que ce pays n'a pas tenu. Parce que c'était déjà les provinces du sud n'avaient pas de tradition de vie en commun, mais alors ça faisait très longtemps qu'elles étaient séparées des provinces du nord, c'est-à-dire de l'actuelle Hollande. Donc cet État a éclaté assez vite, en 1830. Et à ce moment-là, le sud du pays, qui était très peuplé et qui était très riche aussi parce que qui était plus riche que le nord, le sud du pays a plutôt désiré se rattacher à la France parce que ça faisait un certain temps que les provinces françaises du pays étaient acquises aux idées de la Révolution et à l'influence de la culture française. Et ce sont les Anglais qui n'ont pas voulu. Toujours pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que le Congrès national a d'abord proposé au roi de France Louis-Philippe de devenir roi de Belgique en union personnelle, puis a demandé que ce soit son fils qui soit roi des Belges, et à chaque fois les Anglais ont menacé la France d'une guerre en Europe si elle acceptait. Et donc, contraints et forcés, les Belges ont dû accepter un prince de la famille des Windsor, auquel les Windsor avaient promis un trône. Donc, c'est un pays qui est né sans aucune volonté nationale et sans tradition commune.
Ce qui pose problème.
Ce qui n'a pas posé problème à l'époque, mais ce qui s'est révélé être une bombe à retardement. Parce que longtemps, le pays a été assez français, c'est-à-dire qu'il y avait des populations qui parlaient des patois flamands au nord et des populations qui parlaient des patois wallons au sud. Mais pendant tout le 19e, le pays a été très français parce que les wallons étaient assez nombreux, ils étaient très riches puisqu'ils avaient du charbon, qu'ils avaient des industries métallurgiques. Et toute la langue internationale à l'époque, la langue de la bourgeoisie cultivée à l'époque était le français, donc c'était un pays extrêmement français. Évidemment, la bourgeoisie n'allait pas parler le wallon ou le flamand. Mais ça a commencé à poser problème à partir du moment où les flamands se sont affirmés, parce qu'ils n'ont plus voulu du français. Et parce qu'on s'est très vite rendu compte qu'il n'y avait aucune volonté nationale pour maintenir le pays ensemble. C'est-à-dire que chacune des communautés faisait passer son intérêt propre avant l'intérêt national. Donc, ça a posé de gros problèmes pendant les deux guerres. Parce que les Flamands ont vu dans l'Allemagne un possible soutien pour leur émancipation. Et c'est pour ça que la Belgique a une attitude plus qu'ambiguë pendant les deux guerres. Et puis, ça fait maintenant 30 ans que le pays est engagé dans un processus de fédéralisation où il se dissout. complètement, c'est-à-dire qu'il n'y aura bientôt plus rien de national en Belgique. Il reste actuellement au niveau national la justice, mais les Flamands veulent la séparation. La sécurité sociale, mais les Flamands veulent la séparation parce qu'ils sont devenus beaucoup plus riches et qu'ils veulent plus payer pour les Wallons. Et l'armée, mais on a quasiment supprimé l'armée parce qu'on avait des problèmes financiers et que de toute façon un petit pays au cœur de l'Europe n'a pas vraiment besoin d'avoir une force militaire écrasante pour se faire entendre. Donc, il n'y a presque plus rien de national. Et il n'y a pas de volonté nationale non plus. Mais, tu as une question posée ?
Non, j'allais te dire que tu voyais l'avenir de la Belgique assez, de façon assez négative.
Ben, oui et non. Parce que, à partir du moment où chacune des deux parties met son intérêt propre avant l'intérêt commun, il n'y a pas vraiment de raison de maintenir la gestion des intérêts communs. Parce que sinon, c'est systématiquement le plus fort qui l'emporte. Mais c'est pas la seule fracture qui traverse la société belge. En fait, c'était un pays qui était très fragmenté de l'origine, qui était fragmenté géographiquement, puisqu'on n'avait pas d'histoire commune, qui était fragmenté aussi très fort, peut-être même encore plus fort que la France, sur le plan de l'opposition entre laïcs et catholiques. Celle-là, elle existe dès le début de l'État belge. Et c'est un État tellement faible qu'on se rend compte dès le début de l'État belge que il faut toujours composer avec les deux parties, laïcs et catholiques. On ne peut pas... si l'un des deux partis est provisoirement majoritaire, il ne peut pas se permettre de gouverner tout seul sans écouter l'autre. Parce que l'autre a tout de suite la faculté de faire éclater le pays. Donc dans ces conditions, l'État est très, très faible, puisque l'État se ramène au groupement intermédiaire. Et cette architecture n'a fait que se compliquer depuis lors, parce que il y a d'abord eu une division gauche-droite, et puis il y a eu une division nord-sud entre Wallons et Flamands. Ce qui fait que maintenant la société belge est traversée par 6 piliers, libéral, socialiste, catholique, français, et libéral, catholique, socialiste, flamand. 6 piliers qui traversent toute la société, c'est-à-dire toutes les activités qu'on peut avoir dans son existence. Il y a moyen de vivre toute son existence sans sortir d'un pilier, en ne rencontrant que des gens du pilier où l'on se trouve. Les piliers ramènent toutes les activités, ils organisent des écoles, ils organisent des universités, ils organisent des hôpitaux, ils organisent des clubs de sport, ils organisent la fanfare du dimanche, ils organisent... Et il y a moyen de vivre en faisant ses études dans une université de son pilier, dans une école de son pilier, puis dans une université de son pilier, puis rentrer dans un milieu professionnel qui appartient à son pilier, et le soir aller dans des groupes de loisirs de son pilier, ne rencontrer de toute sa vie que des catholiques flamands ou que des socialistes wallons. C'est une société assez fermée, évidemment. Et puis, l'État n'a aucune force. Oui, et les syndicats aussi, évidemment, sont rattachés. Il y a un syndicat pour chacun des piliers. Donc, l'État n'existe pas. Il n'y a pas de tradition d'État bonapartiste, comme en France, au-dessus des groupements et qui impose une certaine neutralité. L'État, chez nous, c'est le consensus permanent entre les 6 piliers, qui se répartissent les subventions aux hôpitaux, les postes, les nominations de fonctionnaires dans les ministères, au prorata de leur pourcentage aux élections. Et les élections sont la proportionnelle, évidemment. On ne peut pas concevoir de système majoritaire comme en France dans une situation pareille. Et bien entendu, pas de président non plus. La solution monarchique est la seule possible, puisque c'est une société tellement fragmentée qu'elle ne peut jamais se reconnaître dans un individu. Ou elle ne peut pas se reconnaître dans un individu qui a une volonté politique, comme en France. Il y aurait sans doute une majorité qui se dégagerait pour un homme s'il devait y avoir des élections présidentielles. Rien n'amènerait ceux qui n'ont pas voté pour cet homme-là à se reconnaître dans sa politique. La seule personne susceptible d'incarner l'État, c'est un monarque, c'est-à-dire quelqu'un qui est responsable, qui ne peut rien dire, ou alors des discours totalement creux, dans lesquels il dit qu'il faut lutter contre la faim dans le monde, ou la misère dans nos rues, et surtout rien de polémique.